Chapitre 39. Au dernier niveau de la citadelle, le vieux scribe nommé Moller, une lampe dans une main, bataillait ferme contre son trousseau de clés. Ludwig connaissait depuis longtemps ce vieillard, la seule personne qu'Anis Hark semblait juger digne de confiance, du moins jusqu'à un certain point. En tout cas, c'était le seul scribe autorisé à poser les yeux sur les prophéties envoyées par l'abbaye. Alors que Ludwig regardait le vieux type chercher désespérément la bonne clé, il envisagea de recourir à son pouvoir pour pulvériser la porte, mais il s'en abstint. Il n'était pas judicieux de se précipiter ni de galvauder ses talents en leur faisant exécuter des tâches secondaires. Et pire que de les galvauder, les exhiber. Grâce à sa pondération, il avait réussi à cacher sa vraie nature à l'évêque. En utilisant ses pouvoirs à tout bout de champ, il se serait vite trahi. De plus, il n'y avait pas urgence puisque personne ne viendrait lui dire de dégager de devant la porte du fief d'Anis Hark, parce que c'était son fief désormais, comme toute la citadelle. Il prit donc son mal en patience.
« Je suis désolé, maître Dreyer. »«
Seigneur Dreyer. »«
Oui, pardon, seigneur Dreyer. »
Erika prit la lampe afin que le scribe puisse se servir de ses deux mains. Inquiet, Moller jeta sans cesse des regards furtifs à Ludwig et il soupira de soulagement quand il eut enfin trouvé ce qu'il cherchait. Tremblant, il rata cependant plusieurs fois la serrure. Agacé, Erika lui prit la main, la guida et l'aida à faire tourner la clé.
« Merci, maîtresse. J'ai passé une bonne partie de ma vie à ouvrir cette porte, mais jamais pour quelqu'un d'autre que...
« Nous comprenons, » fit Ludwig en baissant les yeux sur le crâne dégarni du scribe, plié en deux devant le lourd battant de bois. « Mais quoi qu'il en soit, tu l'ouvres pour ton maître. »«
Oui, je suppose que oui. »
Avec l'ombre d'un sourire, Moller continua à tourner la clé, respectant le rituel dont l'antique serrure devait avoir besoin pour consentir à s'ouvrir. Quand ce fut fait, il poussa la porte et s'écarta pour laisser passer son nouveau maître. Puis il entra à son tour, reprit sa lampe à Erika, saisit un long allume-feu dans un support mural, l'embrasa avec sa lampe et fit le tour de la pièce afin d'allumer toutes les lampes et les bougies. Haut de plafond mais dépourvu de fenêtres, le bureau privé d'Anis Hark était bien plus grand que l'aurait cru Ludwig. Même avec toutes les lampes et les bougies allumées, il restait plongé dans la pénombre, ses coins les plus reculés étant carrément obscurs. Ludwig examina la collection d'étranges objets exposés sur des étagères ou dans des meubles. La disposition sur le sol aux dalles carrées de ces divers présentoirs le fit irrésistiblement penser aux pièces posées sur les cases d'un échiquier. Oui, il y avait un ordre géométrique régulier à tout cela. Les buffets, les bibliothèques, les piédestaux et même les statues étaient disposés pour rappeler des pièces déployées sur un plateau de jeu. Mais à part ça, il ne semblait pas y avoir d'intention particulière derrière cette configuration. Ludwig n'aima pas beaucoup ce décor. Aussitôt, il se souvint qu'il pouvait le faire modifier à sa guise. Par exemple, en ordonnant qu'on range tout contre les murs ou en exposant les objets par thème plutôt qu'au hasard. Alors qu'il traversait la salle, il se mit à la réaménager mentalement de fond en comble, privilégiant avant tout le côté pratique. Comment Anis Hark avait-il pu travailler dans un tel bazar? Avec le temps, il avait dû s'y faire, bien sûr. De plus, n'était-il pas un fervent adepte du chaos? Ce bureau en apprit plus long à Ludwig sur la façon de penser de l'évêque. Brillant dans certains domaines, il savait se concentrer quand il le fallait, et on ne pouvait pas douter qu'il fût puissant, efficace et dangereux. Mais la logique n'était pas le fil conducteur de sa vie. Parfois, il cédait à ses caprices ou se laissait dominer par ses obsessions, par exemple, sa haine maladive de la maison Rale. Dans les bibliothèques vitrées, Ludwig vit toute une série d'objets fort rares et très précieux. Des fragments d'os de créatures hors du commun, d'antiques figurines, d'intrigants appareils et même des cylindres couverts de symboles. Les originaux de ceux qui figuraient sur la peau de l'évêque apparemment. Ces cylindres étaient en fait des tubes mémoire rédigés dans le langage de la création. De tels artefacts rarissimes avaient une valeur inestimable, Au fil du temps, des gens avaient bravé la mort pour s'en approprier. La pièce était également encombrée d'une kyrielle d'animaux empaillés. Outre des spécimens très classiques, un cerf debout sur un cercle d'herbe factice, des castors trônant sur un monticule de brindilles et des oiseaux de proie perchés sur des branches nues, il y avait dans le lot un ours debout sur les pattes de derrière, la gueule ouverte et les griffes dehors, comme s'il songeait encore à attaquer par-delà la mort. Ludwig fut cependant fasciné par les piédestaux éparpillés un peu partout dans la salle, toujours comme des pièces sur un échiquier cependant. Chacun soutenait un énorme grimoire à la reliure de cuir patiné et décoloré par le temps. Délicats à manipuler à cause de leur taille, mais surtout de leur mauvais état, ces ouvrages semblaient avoir à tout jamais élu domicile sur les piédestaux et non dans les rayons d'une des bibliothèques. À côté de ces trésors, des parchemins s'entassaient sur de petites tables. Ludwig reconnut plusieurs rouleaux qu'il avait envoyés à Anis Arc afin qu'il les recopie dans des recueils de prophéties. Plusieurs de ces rouleaux portaient encore leurs sceaux, attendant leur tour d'être ouverts et archivés. Ludwig trouva ce détail agaçant. Enfin, pour réunir ces textes, il n'avait pas lésiné sur son temps ni sur ses efforts, sans même mentionner les gens qui avaient sacrifié leur vie dans le processus. Moller tendit une main au doigt ratatiné.
« C'est mon œuvre, seigneur Dreyer, les grimoires dont je m'occupe. »
Il tapota presque affectueusement un des ouvrages.
« C'est sur ces pages que je copie toutes les prophéties qui arrivent à la citadelle. »«
Celles que je vous envoie, tu veux dire ?»
Le vieux scribe se gratta pensivement la joue.
« Oui, seigneur Dreyer, celles-là et d'autres. »«
D'autres ? Comment ça ?»
J'étais l'abbé d'Anis Arc, l'homme chargé de collecter des prophéties et de les lui transmettre.
Oui, mais vous n'étiez pas le seul.
Qui y avait-il d'autre?
Le vieillard haussa les épaules.
Désolé, seigneur Dreyer, mais je n'étais pas dans le secret.
Il désigna une pile de parchemins.
Mon travail, c'est de copier dans les grimoires les prophéties qu'on envoie à la citadelle.
Tu es le seul copiste? « Et tu as tout archivé ?»
Moller tapota de nouveau un des grimoires.
« Ces ouvrages sont l'œuvre de ma vie, mais ils existaient avant moi, bien entendu. Beaucoup d'autres scribes y ont contribué. Tout est archivé, seigneur. Depuis que l'évêque m'a confié cette tâche quand j'étais encore un jeune homme, j'ai copié dans les grimoires toutes les prédictions qui nous parvenaient. J'ai consacré toute ma vie à cette mission. »
Anis Arc, comprit soudain Ludwig, n'était pas le seul expert en prédiction. Durant toutes ces années, Moller n'avait sûrement pas pu résister à la tentation de lire ce que ses prédécesseurs avaient copié. En d'autres termes, ce vieillard connaissait plus de prophéties que n'importe qui au monde, ce qui le rendait fort précieux et hautement dangereux. Une idée traversa soudain l'esprit de Ludwig.
Comment sais-tu dans quel grimoire copier une prédiction? Ou remplis-tu un grimoire avant de passer au suivant?
Non, chaque prophétie doit aller dans un grimoire spécifique.
Et comment détermines-tu ça?
Perturbé par la question, Moller regarda pensivement la multitude de piédestaux éparpillés dans la salle.
Seigneur Dreyer, chaque prophétie doit être enregistrée là où est sa place.
Certes. « Mais comment la connais-tu, cette place? L'évêque te la montrait ?»«
Non, c'est mon travail. Comme vous pouvez le voir, il n'ouvrait pas les rouleaux avant moi. Au contraire, il en prenait connaissance après que je les avais copiés. Parce qu'il lisait plus facilement mon écriture, disait-il. Il est vrai que certains textes, mal calligraphiés ou abîmés par le passage du temps, sont difficiles à déchiffrer. » Du coup, c'était à moi d'évaluer les prophéties afin de savoir où les copier.
Et quels éléments guidaient ton choix?
Le sujet, avant tout le sujet. Je copiais les prédictions à leur place. Comme ça, quand l'évêque voulait approfondir un sujet donné, il se penchait sur un seul grimoire au lieu de perdre son temps à les consulter tous. Vous voyez ce recueil-là? Toutes les prédictions qu'il contient concernent la maison Râle. Bien sûr, classer les prophéties est très délicat parce qu'elles traitent souvent de plusieurs sujets, C'est une affaire de jugement. J'évalue le sens d'une prophétie, je détermine ce qu'elle vise et je la consigne dans le livre requis.
C'est du pur délire, marmonna Ludwig.
Seigneur,
procéder ainsi revient à faire fi de la chronologie. Il n'y a aucun lien temporel entre les divers textes.
Et en matière de prédiction, la chronologie comptait plus que tout. Qui se souciait d'une prophétie au sujet d'un événement s'étant déroulé des milliers d'années plus tôt? Sauf intérêt historique, mais là, plus rien à voir avec la prédiction du futur. Par exemple, Ludwig aurait bien aimé en apprendre plus sur l'antique guerre et le destin de l'empereur sous la canne.
« Seigneur Dreyer, on dispose rarement d'éléments pour déterminer une chronologie. C'est pour ça que le sujet prime. »
Et tout ce travail de fourmi, comprit Ludwig, n'avait servi à rien. En règle générale, on ne pouvait pas interpréter une prédiction en se fiant uniquement à ce qu'elle disait. Ces textes étant délibérément hermétiques, ils servaient toujours à stimuler le génie des prophètes tentant de les déchiffrer. Parfois, on tombait même sur des écrits conçus pour occulter leur véritable sens. Les efforts de Moller et de ses prédécesseurs étaient peine perdue. Leur classement n'avait pas de sens, et plus grave encore, il obscurcissait les prédictions en les séparant arbitrairement les unes des autres. Anis Arc devait s'être fichu de condamner un pauvre scribe à travailler pour rien. De son côté, il disposait d'un endroit où consulter les prédictions obligeamment calligraphiées de la même main pour lui faciliter la tâche. À part ça, il n'accordait sûrement pas le moindre intérêt au classement de Moller. Alors qu'il approchait d'un recueil afin de le consulter et de voir quelle prophétie Anis Arc obtenait par d'autres sources que lui, Ludwig remarqua quelque chose sur le grand bureau central. Les grimoires pourraient attendre. De toute façon, il contenait sûrement des doublons de prédictions qu'il connaissait déjà, et s'il y avait quelques perles rares dans le lot, il aurait tout le temps de les trouver. Approchant du bureau, il déroula à moitié le parchemin qui avait attiré son attention. Comme il s'en était douté, le texte était rédigé dans le langage de la création. Plissant les yeux, il s'efforça de le déchiffrer.
« C'est un manuscrit soleilien, » dit-il sans cacher son étonnement. « Tu m'entends, Moller? Un manuscrit soleilien ?»
Le vieux scribe resta de marbre.
« Si vous le dites, seigneur Dreyer, dans ces choses-là, je suis un complet ignorant, incapable de comprendre une ligne. Anis Arc était le seul à travailler sur ces artefacts. Sa spécialité,
une spécialité bien dangereuse.
Tu veux dire qu'il y en a d'autres ?
Je ne sais pas trop. C'était son domaine, comme je viens de le dire. Mais je crois qu'il y en a un ou deux de plus. L'évêque a souvent écrit des textes avec le même genre de symbole.
Montre-moi.
Ludwig suivit le vieil homme qui se dirigeait vers une armoire. Mais en chemin, le nouveau seigneur s'arrêta et sursauta.
Des esprits,
murmura-t-il.
Seigneur Dreyer?
Des esprits sont venus dans cette pièce. Je sens l'empreinte qu'ils laissent derrière eux, l'essence, devrais-je même dire.
Moller parut inquiet, comme s'il s'attendait à voir apparaître des spectres. Les quatre morts de site postés près de la porte balayèrent le bureau du regard mais ne dirent rien. Erika les imita puis haussa les épaules.
Que sais-tu des esprits qui sont venus ici?
Demanda Ludwig au vieil homme.
« Rien, seigneur Dreyer. Mais par moments, c'est vrai, j'ai eu l'impression que cette salle était hantée. »«
Et tu ne te trompais pas ?»
Moller parut plus inquiet encore.
« C'est vrai? Elle est hantée ?»«
Elle l'a été, mais c'est fini. »«
Eh bien, tant mieux, seigneur. Je n'ai jamais rien su de tout ça. En ma présence, l'évêque n'a pas une seule fois fait allusion à des esprits. »
Ludwig ne douta pas que c'était vrai. Anis Arc n'aurait pas parlé d'un sujet pareil avec son vieux scribe. Il réservait les conversations de ce type à des créatures venues d'un autre royaume. Son nouveau maître lui ayant fait signe de revenir à leurs préoccupations précédentes, Moller ouvrit la porte d'une armoire pour révéler tout un rayonnage garni de rouleaux de parchemin. Ludwig saisit un de ceux qui semblaient les plus anciens.
Il l'ouvrit prudemment et constata que le texte était intact. Un autre manuscrit se layait. Il ne reconnut pas les angles d'azimut, mais sa connaissance du langage de la création lui permit de voir que le rouleau parlait des prophéties. Pas pour les interpréter, mais presque comme si elles étaient des créatures vivantes. Et ça, c'était très troublant. D'autant plus que le manuscrit évoquait un temps où on en finirait avec les prophéties.